Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes à tirer du média suivant. La presse. Au programme, Terre sans maître n'est plus bonne à prendre. Le danger des intelligences. Le droit à l'égalité des enfants est parfois oublié. Et plein air, le plaisir de type 2. Bonne écoute.
Terre sans maître n'est plus bonne à prendre. Un texte d'Isabelle Picard, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. La doctrine de la découverte, ou Terra Nullius, a été mise en place au 15e siècle par l'Église catholique. Comme je veux garder ce texte digeste alors que vous êtes en train de siroter votre café du samedi matin, je simplifierai en disant que l'Église, par le biais de cette doctrine, venait justifier moralement la prise des territoires, des ressources et des humains, oui, des humains, qui se trouvaient sur le Nouveau Monde. Vous n'avez pas recraché votre café? Parfait, continuons. Selon l'Église catholique et les pays colonisateurs, les Autochtones n'avaient pas le niveau de civilisation suffisant pour être les propriétaires de leur territoire, des ressources qui s'y trouvent et pour décider pour eux-mêmes. De surcroît, ils n'étaient pas chrétiens. La dite Église, en mettant en place cette doctrine, venait confirmer qu'il était justifié et justifiable de prendre les terres des autres sans demander la permission. Pratique, non? Du même souffle, on venait affirmer que les Européens avaient bel et bien découvert un nouveau monde, plus facile pour arriver à un même but. Étendre son empire et exploiter les ressources, y compris les habitants originaux de ces terres, de l'Afrique à l'Amérique. Pas si vieux comme doctrine. Oui, mais plus aucun gouvernement, aucune personne n'utilisait cette doctrine dans les faits de toute façon. Cette phrase... je l'ai entendu sous toutes ses formes cet été lors de la visite du pape François Ier au Canada. Or, c'est totalement faux. En 2005 encore, la doctrine de la découverte était utilisée en Cour suprême des États-Unis par nul autre que la célèbre juge Ruth Bader Ginsburg dans la cause Sherrill C. versus Oneida Nation. Dans sa décision, la juge Ginsburg est venue nier l'immunité tribale de la nation Oneida sur des terres qu'elle avait autrefois habitées, qu'elle s'était fait prendre sans consentement et qu'elle avait dû racheter en grands frais, pièce par pièce, sur le marché immobilier. Les Oneida y réclamaient des droits et la Cour suprême est venue les refuser en invoquant que le concept de souveraineté sur ces terres était inapplicable puisque les Oneida ne les avaient pas habitées en continu. Normal, on les leur avait volés. Pourquoi je vous parle de ce cas qui implique les États-Unis? C'est parce que ce discours, cette défense, n'est pas propre à nos voisins du Sud. C'est un peu la même chose ici au Canada. En effet, quand les premiers peuples font une demande de revendication territoriale globale auprès du gouvernement fédéral, ils doivent prouver une occupation continue du territoire. Et c'est parfois difficile. Vous savez pourquoi maintenant. Mais remontons un peu le temps. Disons, au hasard, 1492. Christophe Colomb, alors à l'emploi des Espagnols, arrive dans les Caraïbes avec son trio de beaux bateaux à voile. Il rencontre des gens qui y vivent, il se croit en Inde, alors il les nommera les Indiens. Un beau bloc monolithique qui ne parle pas la bonne langue, n'a pas la bonne couleur de peau, qui n'a pas de roi et qui ne sait ni lire ni écrire. En plus, les femmes ont leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Les enfants vivent librement, sans discipline stricte, et les habitants ne savent pas exploiter les ressources puisqu'ils les respectent et en prennent soin, et n'ont, aux yeux des Espagnols, aucun dieu. Ou pas le bon, en tout cas. Quelle façon barbare de vivre! Sic! Colomb veut de l'or, et il fait tout pour le trouver, jusqu'à tuer et torturer des milliers de personnes. Mais prendre ainsi les territoires et leurs ressources, réduire des milliers de personnes à l'esclavage, ce n'est pas tellement catholique. Il faut trouver quelque chose pour être absous de tous ces péchés. Le document Inter Cetera, la dernière d'une liste de bulles pontificales catholiques, signée cette fois par le pape Alexandre VI en 1493, verra le jour en réponse à cette problématique. Mais il y a derrière ça, si je comprends bien, de la grosse politique. Cet acte empêchera le roi du Portugal de s'emparer des nouveaux territoires, puisque le pape du moment, lui aussi espagnol, interviendra en faveur de la couronne de Castille, catholique, pour lui attribuer toutes les terres à l'ouest des Açores en vue d'évangéliser les 10 Indiens. La mission est bien plus noble ainsi. Assez sur ce retour historique. Quiconque connaît la loi sur les Indiens sait que cette loi prend ses échos au cœur de cette doctrine. Sinon, pourquoi serions-nous, comme membres des Premières Nations, encore des pupilles, des mineurs aux yeux de l'État, même aujourd'hui? Pourquoi les pensionnats pour autochtones auraient été rendus obligatoires par cette loi si ce n'était pour nous évangéliser et nous amener au rang de civilisés? Cette doctrine de la découverte se cache encore parmi nous. Combien de fois a-t-on essayé de nier la présence autochtone lors de la construction de pipelines ou de barrages, pour ne nommer que ça? Alors non, cette doctrine archaïque n'est pas éteinte ou dormante. Elle s'est insinuée insidieusement dans les pensées et les actions d'hier à aujourd'hui. Il était grand temps que l'Église répudie cette doctrine qui n'aurait jamais dû être. Et grand temps que tous, nous en prenions acte. C'était « Terre sans maître n'est plus bonne à prendre », un texte d'Isabelle Picard, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. Le danger des intelligences. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. La réponse à cette question a été publiée dans les journaux cette semaine par un millier de signataires. Qui aurait pensé que l'intelligence naturelle, qui brille par son absence de sagesse au sommet de la création, aurait un jour à craindre sa propre créature? Le spécialiste en intelligence artificielle, IA, Yoshua Bengio fait partie des personnes qui ont exprimé leur crainte de cette nouvelle intelligence venue des machines. Convaincu que les robots conversationnels peuvent représenter un risque pour l'humanité que nous n'avons pas le temps d'évaluer à cause de la rapidité de leur développement, ces sages appellent à la retenue. C'est la fiction qui dépasse la réalité, car Hollywood nous a souvent présenté ces scénarios mettant en vedette une créature qui échappe au contrôle du scientifique extravagant et un peu barjot qui l'a mise au monde. Devenue incontrôlable à l'extérieur du labo, la bête finit souvent par s'attaquer à son créateur, qu'elle tient pour responsable de son sort. Alors, si Bengio et tous les autres ont des raisons valables d'avoir la frousse de l'IA, nous sommes dans un récit en deux temps, ironiquement très semblable à ces films de science-fiction. Une histoire qui commence au moment où la nature a créé ce bipède dont le cerveau, qui représente 2% de la masse du corps, consomme entre 20 et 25% de toute son énergie au repos. Une machine de création et de destruction massive qui ne contient pas loin de 100 milliards de neurones. Chaque neurone peut aussi se connecter à des milliers d'autres, ce qui crédite chaque humain d'autant plus de connexions nerveuses qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. La force de l'humain. Armé de ce superordinateur cérébral, l'humain a accompli en une fraction de seconde dans l'échelle évolutive ce que la nature a mis des millions d'années à fignoler. Par exemple, en seulement quelques siècles, nous avons appris à voler là où la nature a consacré près de 3 milliards d'années à inventer les ailes des oiseaux. Avec la voiture, nous avons battu la pointe de vitesse du guépard, l'avion nous a permis de donner une leçon de vol aux faucons, nos bateaux ont laissé dans leur sillage les poissons volants et, avec les sous-marins, nous côtoyons les baleines dans les profondeurs. Nous avons même trouvé des façons d'aller voir ce qui se passe sur les autres planètes. Rien dans la biosphère ne résiste désormais à la puissance destructrice de l'humain qui s'est arrogé le droit de vie et de mort sur le reste de la création. Grâce à une gigantesque campagne d'autoglorification, il a même réussi à se convaincre que tout ce qui vit sur la Terre a été créé juste pour satisfaire ses moindres désirs et caprices. Autrement dit, que Mère Nature a consacré plus de 3,5 milliards d'années à fignoler la planète et sa biodiversité en attendant l'arrivée de l'élu, le petit dernier, qui n'a pas plus de 300 000 ans d'âge. Pas surprenant alors de voir cet enfant gâté scier la branche sur laquelle il est assis sans trouver la force de s'arrêter. Changement de paradigme. Mais il y a du nouveau chez ce bipède devenu son propre prédateur. Il a désormais peur d'un monstre intelligent qui s'est échappé de ses neurones. Comment en est-il arrivé là? Par ce qui ressemble à une boucle de rétroaction négative. Au premier temps de cette histoire, c'est la nature qui a créé l'intelligence naturelle humaine. Une fois au sommet de sa clairvoyance, cette intelligence naturelle s'est retournée contre sa créatrice. Au deuxième temps, c'est l'intelligence naturelle humaine qui accouche de l'intelligence artificielle. Voici maintenant qu'à son jeune âge, cette intelligence artificielle commence déjà à donner des sueurs froides à son créateur. Craignant d'être punie par là où elle a péché, l'humanité commence à s'interroger. De quoi avons-nous véritablement peur dans cette histoire? Nous redoutons surtout que la stupidité naturelle du genre humain s'empare de l'intelligence artificielle. Quand l'éminent Yoshua Bengio dit craindre que ces esprits non humains nous rendent obsolètes et finissent par nous remplacer, il exprime ce manque de confiance en notre lucidité. Mais, à mon humble avis, ce drapeau rouge arrive un peu trop tard, car l'humain renonce difficilement à ce qu'il considère comme un signe de progrès qui permet de sauver du temps, de faire de l'argent et d'économiser de l'énergie cérébrale. C'était « Le danger des intelligences », un texte de Boukhar Diouf, paru le 1er avril 2023 dans La Presse.
Le droit à l'égalité des enfants est parfois oublié. Un texte de Carmen Lavallée et Jean-François Chicoine paru le 11 avril 2023 dans La Presse. La réforme de la loi sur le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, visait notamment à mettre fin à une injustice à l'égard des enfants adoptés qui, jusque-là, n'avait pas droit à la même protection légale que les autres enfants. Elle est le fruit d'un consensus rendu possible grâce à l'approche non partisane des parlementaires, éclairée par des expertises en pédiatrie, en services sociaux et en droit, ainsi que par différentes associations parentales. Bien que la loi trace maintenant la voie à suivre dans l'attribution des congés parentaux, plusieurs conventions collectives maintiennent, voire réitèrent, un traitement inégal des familles et des enfants, comme le démontre la récente entente de principe conclue entre l'Université de Sherbrooke et le Syndicat des professeurs et professeurs, SPPUS. Arguant agir au nom du droit à l'égalité des pères biologiques dont le congé de 5 semaines était plus court que celui d'un parent adoptant, mère ou père, qui était de 17 semaines, le SPPUS revendiquait que les deux congés soient d'une durée égale. Ce faisant, le syndicat oubliait que les congés d'adoption ont longtemps été la seule contrepartie des congés de maternité et que le RQAP reconnaît désormais un congé réservé exclusivement aux adoptants afin de tenir compte du profil particulier des enfants adoptés. En effet, ces derniers présentent, pour la plupart d'entre eux, des retards de développement, des syndromes post-traumatiques, des défis d'attachement ou divers problèmes de santé physique, dont la malnutrition et des conditions chirurgicales parfois éprouvantes, rendant leur prise en charge particulièrement exigeante et complexe. Or, selon l'entente de principe intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le SPPUS, les parents biologiques auront droit ensemble à 36 semaines pendant lesquelles ils recevront 100% de leur salaire, alors que les parents adoptifs auront droit à 20 semaines de congé. On impose donc aux parents adoptants un fardeau financier représentant presque le double de celui des parents biologiques. De plus, en omettant de considérer que les mères adoptantes sont beaucoup plus nombreuses que les pères adoptants à recevoir des prestations du RQAP, les syndicats qui choisissent cette stratégie, qui consiste essentiellement à déshabiller Jean pour habiller Paul, se trouvent en réalité à mener une lutte genrée dont les femmes font majoritairement les frais. Au soutien de leurs prétentions, les tenants de cette approche se retranchent derrière quelques décisions judiciaires dont le fondement légal repose sur l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de différence significative entre la prise en charge d'un enfant, qu'il soit biologique ou adopté. Or, la littérature scientifique met en pièces le bien fondé de cette affirmation. Il n'est donc plus possible, selon nous, d'établir une différence de traitement entre les familles et les enfants sur le seul fondement de ces décisions. L'étude de celle-ci montre d'ailleurs que les syndicats utilisent parfois le congé d'adoption comme un levier pour réclamer l'allongement des congés de paternité en contrepartie d'une diminution des droits des adoptants. Le congé de paternité consenti par l'Université de Sherbrooke est désormais le double de celui prévu par le RQAP. Or, ce gain est fait au détriment des enfants adoptés qui, étant plus vulnérables, sont particulièrement affectés par la diminution de la durée des congés d'adoption. C'est précisément pour mettre fin à cette situation discriminatoire que la loi sur le RQAP a été modifiée. Alors que le nombre d'enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse est en hausse, l'engagement d'adultes prêts à s'investir, comme parents, auprès de ces enfants aux besoins particuliers est plus important que jamais. Alors, lorsque certains sont prêts à relever ce défi, ils devraient pouvoir compter sur le soutien de leur communauté, incluant celui de leur employeur et de leur syndicat. C'était « Le droit à l'égalité des enfants est parfois oublié ». Un texte de Carmen Lavallée et Jean-François Chicoine, paru le 11 avril 2023 dans la presse.
plein air, le plaisir de type 2. Un texte de Marie Tison, paru le 1er avril 2023 dans La Presse. De nombreux amateurs de plein air connaissent ce sentiment lorsqu'ils randonnent à la pluie battante, lorsque l'ascension d'un pic n'en finit plus de finir ou lorsque le vent empêche le canot d'avancer d'un seul mètre. « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» se demandent-ils. Puis, ils finissent par trouver un abri. Ils atteignent le sommet où ils trouvent une baie plus tranquille. Plus tard, en se remémorant l'aventure, ils se disent qu'en fait, ils ont eu bien du plaisir. C'est ce qu'on appelle le plaisir de type 2, un important concept dans le monde du plein air. Selon ce concept, il existe trois types de plaisir en plein air. Le plaisir de type 1, c'est lorsque tout va bien, que c'est agréable, qu'on a du plaisir. Le plaisir de type 2, c'est lorsque c'est ardu et que le plaisir n'apparaît qu'après coup. Le plaisir de type 3, c'est lorsqu'une expérience est indéniablement déplaisante et que même en rétrospective, on n'éprouve aucun plaisir. Évidemment, l'utilisation de l'expression « plaisir de type 3 » est hautement ironique. Jacob Racine est un guide d'aventure, un aventurier et un grand spécialiste des trois types de plaisir. Je fais principalement du plaisir de type 2, mais avec ma blonde et mon fils, je fais du type 1, raconte-t-il. On part en canot camping une semaine. Je m'organise pour que le plaisir quotidien reste toujours présent, en planifiant le rythme en conséquence, les arrêts, la bouffe. Je ne veux pas que mon fils s'écœure du plein air. Ça fait en sorte que, chaque fois que je lui propose un projet, il est partant. Il espère commencer à explorer le plaisir de type 2 avec son fils lorsqu'il entrera plus profondément dans l'adolescence. Il s'agira alors de travailler le dépassement de soi, de faire face aux difficultés qui se présentent, de se dépasser et d'éprouver par la suite une grande satisfaction, un grand plaisir. Dans mon cas, ce qui me drive le plus dans la vie, c'est le plaisir de type 2, dit-il. Jacob Racine donne l'exemple d'une étape de l'expédition Accor, près de l'île d'Ellesmere, en Arctique, avec Nicolas Roux et Guillaume Moreau. Ce dernier avait une telle inflammation au genou qu'il était impossible de respecter le calendrier de progression et d'atteindre le point de ravitaillement à temps. « On allait manquer de carburant », se rappelle Jacob Racine. « Or, s'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'eau, on meurt !» La tentation était grande d'abandonner. Les participants ont toutefois trouvé une façon d'économiser le carburant. Ne pas faire bouillir l'eau une fois la neige fondue et utiliser plutôt des comprimés pour la traiter. Il s'agit de trouver une solution qui va nous amener à dépasser la problématique. Ça nous donne un sentiment de réalisation. Ça va apporter du plaisir. Il met toutefois en garde contre la tentation de poursuivre une aventure lorsque les conditions sont vraiment dangereuses. Il faut savoir quand arrêter. Sinon, on va tomber dans le plaisir de type 3. On n'a pas de plaisir du tout et on risque de se blesser, dit-il. Jacob Racine a vécu une période de plaisir de type 3 lors d'une traversée du Québec à ski entre Montréal et Coudjouac en 2014 avec Marie-André Fortin, Bruno-Pierre Couture et Sébastien Dugas. Arrivé au lac Mistassini, on avait une décision à prendre, raconte Jacob Racine. Soit on suivait le tracé des gars qui avaient fait l'expédition en 1980, soit on allait voir les monts Otish, un détour de 170 km qui n'était pas prévu au départ. On s'est demandé si on aurait l'occasion de retourner dans les monts Otish. Probablement jamais. Tant qu'à être si près, allons-y. Ça a été l'enfer. On est entré dans le Mordor. Il s'agissait notamment de suivre des rivières encaissées, où la neige était abondante et poudreuse. On n'arrivait pas à avancer. Pendant la première journée, on a fait seulement 3 km en 15 heures, se remémore-t-il. L'effroi était terrible. Malgré cela, les rivières étaient tellement tumultueuses qu'il y avait plusieurs sections d'eau libre. Mes skis ont défoncé, je suis tombé dans la rivière jusqu'aux hanches. Ça a été un enchaînement de mauvaises situations. Arrivé au Mont Otish, Jacob Racine était trop épuisé pour en profiter. Ce sont 15 jours qui n'ont servi à rien. C'était définitivement du plaisir de type 3. Je ne le referai jamais. Juste à en parler, je fais de l'urticaire. Pour l'instant, Jacob Racine n'a pas d'expédition de plaisir de type 2 ou 3 en préparation. Il va toutefois guider ce printemps des voyages avec Vélo-Québec. Ça, c'est du plaisir de type 1. C'est du bonbon. C'était « Plein air, le plaisir de type 2 », un texte de Marie Tison, paru le 1er avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.